Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis sur RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, Anne Boisset, sociologue chargée du programme de santé mentale dans la Drôme au sein de l'IREPS, et Marcel Allard, président de l'UNAFAM, que je laisserai plus tard présenter cette structure. Ils sont venus parler à la radio du DIWA d'un film qui va passer dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale et qui s'appelle Les Voix de ma sœur et qui est programmé au Pestel le 23 mars à 18h. Messieurs, dames, bonjour.
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 Alors, peut-être vous pourriez présenter les structures qui se sont associées pour présenter ce film dans le cadre de cette semaine d'information sur la santé mentale.
Alors, il y a 3 structures. Il y a l'UNAFAM, je laisserai Marcel Allard la présenter. Il y a l'IREPS, Éducation Saint-Édrome. Et il y a l'espace social et culturel de Die et du DIWA qui est aussi associé à cette manifestation. Moi, dans un premier temps, alors, je vais dire 2 mots de l'IREPS, Éducation Saint-Édrome. C'est une association régionale avec une antenne sur la Drôme. Elle intervient dans le champ de la promotion de la santé, principalement. Et dans ce cadre, elle a un axe santé mentale. Donc pour la santé mentale sur la Drôme, le travail d'éducation santé Drôme se résume principalement à l'animation de réseaux prévention du suicide. Et ces réseaux, il en existe 5 sur le département, 1 à Die, 1 à Cray, 1 à Montélimar, 1 à Nyons et 1 à Anneyron. Celui de Die, puisque c'est celui qui nous intéresse, et le premier qui a été créé sur le département. Il était mis en place il y a 10 années à la suite de plusieurs suicides de jeunes. Et il rassemble le maximum de professionnels, d'intervenants médicaux, sociaux, éducatifs, voire culturels, voire de santé, hospitaliers ou psychiatriques, et qui interviennent sur le DIWA. Ils se réunissent 4-5 fois par an. Ils échangent entre eux autour de problématiques, autour de la question du suicide, mais pas seulement, aussi autour de la question de la santé mentale. Voilà, en gros, pour présenter rapidement ce que fait le réseau Prévention Suicide, qui est animé par l'espace social et culturel de Die et du DIWA et par moi-même au nom d'Éducation Santé Drôme.
Très bien, mais on y reviendra tout à l'heure, mais je vous poserai bien des questions sur justement quel type d'action, autre que celle dont on parle aujourd'hui, pourrait être menée par ce réseau. Alors, quant à l'UNAFAM, alors ?
Alors, l'UNAFAM, eh bien, je m'appelle Marcel Allard, je suis le président de cette association pour la Drôme. L'UNAFAM, c'est l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades ou Handicapées Psychiques. Bon, donc si j'ai été amené à m'occuper de cette association, c'est parce qu'elle m'a accueilli, ainsi que mon épouse, lorsqu'il y a 10 années, l'une de nos 3 enfants, qui habite actuellement dans la région lyonnaise, a présenté des troubles que l'on avait du mal à identifier et qui rapidement se sont avérés être des troubles psychiques dus à une maladie grave qui s'appelle une psychose. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler de ces types de maladies. Et donc, après avoir eu les appuis de cette association, j'avais un peu de temps arrivant à la retraite. Et je me suis proposé d'en être l'animateur.
Peut-être dire aussi l'espace social de Die. Enfin, je pense que ici tout le monde le connaît, mais il a une part importante dans l'organisation de cette soirée aussi.
Oui, et puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'ils étaient partie prenante dans ce réseau de prévention des suicides. Peut-être qu'avant même de parler du film, pourrions-nous parler un peu de la réalité de ce que ça représente et les maladies mentales. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale et puis qu'est-ce que représentent aussi les suicides en France? C'est un fait de société. Est-ce que vous avez des données un petit peu?
Alors, les données sur le suicide, c'est en gros, il y a entre 10 et 11 000 suicides par an en France. Après, si on regarde autour des classes d'âge, on va se rendre compte que les personnes âgées sont particulièrement touchées. On va se rendre compte aussi que les jeunes sont touchés, mais les jeunes, par exemple, c'est la deuxième cause de mortalité. C'est la deuxième cause de mortalité parce que les jeunes ne meurent pas de maladie, ils meurent d'accident de voiture et derrière, ils meurent de suicide. Alors, c'est un problème grave. Si on le regarde du côté des professions, on va se rendre compte qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. On en a parlé avec les suicides de France Télécom. Mais par exemple, le monde agricole est un monde extrêmement touché. Il y a plus de 400 suicides par an. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un suicide par jour en France d'agriculteurs. Donc, c'est quand même une donnée importante. Les chiffres précis, peut-être que c'est pas nécessaire comme ça de les donner. On sait, grosso modo, que les hommes se suicident plus que les femmes. Enfin, après, il faut revenir à des données statistiques plus précises, les expliquer, les travailler. Peut-être que c'est pas la meilleure approche. En tout cas, ce qui est important, c'est de dire que depuis quelques temps, depuis quelques années, on n'aborde plus seulement la question du suicide à partir des cas cliniques, mais on commence à regarder les contextes de travail, les contextes environnementaux, et on prend ces données en compte pour voir comment il y a des gens qui deviennent très vulnérables, très dépressifs, et qui du coup peuvent passer à l'acte. Et cette donnée-là, elle est importante, elle est assez récente finalement, parce que jusqu'à présent, on traitait le suicide notamment à partir d'analyses cliniques, psychologiques.
Oui, alors le suicide, c'est un aspect bien sûr le plus dramatique et souvent bien visible de l'un des aspects de la santé mentale. Hein. Bon, la santé mentale, en fait, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la santé mentale ? C'est un vaste sujet, ça nous concerne bien sûr tous. On dirait d'une façon très très simple, c'est être bien dans sa tête, hein, c'est être bien dans ses baskets. Et puis alors, si on peut chercher des définitions plus complètes, comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Bon, donc on voit que c'est très vaste. Il ne faut pas s'étonner que plus d'un quart de la population, à un moment donné de sa vie, rencontre des difficultés au niveau de sa santé mentale. Bon, difficulté, ça peut être un moment, ça peut passer, ça se soigne, etc., etc. On voit qu'il peut y avoir des facteurs personnels, des facteurs familiaux, le travail, la vie sociétale, etc. Bon, et puis dans tout cela, il y a l'aspect vraiment maladie qui concerne la santé mentale. Et là, quelques maladies très très graves qui impacte environ 3 à 4% de la population. Donc si on regarde sur l'espace du Diois, qui est d'environ 13 000 habitants, on peut dire qu'au moins 400 à 500 personnes sont impactées par des maladies psychiques très graves. Mais les malades, c'est une chose, mais leur entourage est également extrêmement impacté par ces maladies. Et donc là, on arrive à 8% de la population, c'est-à-dire sur le Diois, ça représente environ un millier de personnes.
Vous avez parlé de maladies, mais vous n'avez pas été très précis. De quelles maladies parle-t-on ? Est-ce que ce sont vraiment des maladies qui se déclarent au niveau physiologique, qui ont une racine peut-être génétique ou je ne sais quoi ? Ou est-ce que ce sont des malaises qui s'installent et qui finissent par impacter, comme vous le dites, le corps ?
Oui, c'est vrai, on a été très vague sur le terme maladie, ou j'ai été très vague sur le terme maladie. Mais en fait, c'est peu connu et c'est souvent des mots qu'on hésite à prononcer parce que ce sont des mots extrêmement stigmatisants. Hein ? Si je prononce le mot de psychose, tout de suite on pense à certains films d'horreur. Si je vous parle de forme de schizophrénie, donc là on a tout de suite en tête des idées de violence, alors qu'on en est très loin en réalité dans ces maladies, mais il s'agit bien de ces maladies-là, mais ça concerne aussi les dépressions graves et chroniques, donc des personnes qui peuvent presque toute leur vie être en situation de dépression, des troubles qu'on appelle les troubles bipolaires, qui autrefois s'appelaient la maniaco-dépression. Ça, on comprend déjà mieux ce que c'est. Dépression, on voit ce que c'est. Eh bien, la maniaco-dépression, c'est la personne, par moment, est en phase de dépression profonde et par moment est en phase d'euphorie, de grande euphorie. Tout lui est possible, tout lui est accessible. Elle vit 24 heures sur 24, etc. Voilà, pour définir un peu. Après, vous avez des troubles comme les troubles obsessionnels compulsifs. Ce sont des personnes qui sont habitées par une très, très grande angoisse et qui sont obligées de répéter des gestes à longueur de journée pour calmer un peu leurs angoisses. Vous avez aussi des personnes qui s'isolent dans leur demeure et qui accumulent des tas de choses. On appelle ça le syndrome de Diogène. C'est également extrêmement handicapant.
Qu'est-ce qui est fait de nos jours pour aider ces personnes qui sont en difficulté ?
Moi, mon travail, je suis principalement financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, il y a des fonds qui sont, il faut le reconnaître, très modestes, puisque les fonds de prévention ne sont pas les fonds principaux de l'Agence régionale de santé. Mais il y a quelques fonds qui sont attribués pour animer des réseaux, pour s'occuper de la santé mentale. Après, alors je laisserai Marcel répondre, mais il y a tout le secteur de la psychiatrie, puisque ce sont des maladies qui sont traitées par le secteur psychiatrique. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Marcel, qui me semble important, c'est que la maladie mentale, vous parliez de génétique, ou ça, moi, je ne saurais pas dire, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire, c'est que c'est une maladie qui se déclenche à un moment de la vie des individus. Ce n'est pas une maladie, par exemple, on parle du handicap physique ou qui sont des pathologies qui apparaissent à la naissance ou qui sont découvertes dans les premières années de la naissance. Et la découverte est très, très dure aussi hein, pour les parents. Mais là, dans la question du handicap psychique, la maladie, alors on dit le terme technique, c'est décompensé. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne décompense. Alors pour le dire autrement, on peut dire qu'elle pète les plombs. Et quand elle pète les plombs, on pète tous un peu les plombs, sauf que là, ça devient plus grave. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est des personnes qui ont eu des vies ordinaires, qui ont eu des enfants souvent tout à fait normales, et qui, à un moment de leur vie, ça peut être à 15 ans, ça peut être à 18, ça peut être à 20, ça peut être à plus, basculent de l'autre côté. Et ça, c'est une donnée très importante, parce que le regard social, parfois, il est très dur. C'est-à-dire, quelqu'un qui naît handicapé, il naît handicapé. Enfin, bon, après, le regard social, cette personne est vue comme défaillante, mais il y a quelque chose qui lui est tombé dessus. Alors que du coup, du côté de la pathologie mentale, il y a des fois une volonté de faire un peu porter la responsabilité ou à la personne concernée ou à sa famille. Parce qu'elle a été ordinaire avant, et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très important. Sur 10, il y a un certain nombre de personnes qui sont touchés par des handicaps psychiques, mais qui sont dans la rue, qui habitent dit, et qui ont des comportements qui peuvent surprendre, déplaire et tout. Et ces gens-là n'ont rien à voir avec la délinquance. Ils ont à voir avec la pathologie et ils ont besoin beaucoup plus d'aide que de surveillance. Et ça, je pense que ça concerne bien la ville de Die.
Oui, c'est justement pour ça que je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour eux, à part donc la psychiatrie.
Ouais, peut-être que Marcel, tu peux dire beaucoup plus.
Oui, alors il y a vraiment beaucoup à dire, et puis on va essayer de rapporter tout ça à l'échelon de Die. D'abord, je voulais apporter un complément à ce que tu dis, tu as tout à fait raison de décrire la maladie comme ça. On peut dire aussi que cette maladie apparaît généralement entre 15 et 25 ans. Hein, et l'une des caractéristiques, c'est qu'au départ, elle est invisible. Il n'y a pas vraiment de manifestation, elle se produit à l'intérieur du cerveau et il n'y a pas d'apparence, comme tu le disais fort justement, comme dans un handicap physique ou quelqu'un qui est aveugle ou des choses comme ça. Ouais. Voilà. Donc la maladie est invisible et généralement les personnes qui tombent malades ne sont pas dans la demande d'aide parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles sont malades. Hein. Donc elles peuvent avoir des manifestations progressives qui surprennent, mais elles ne vont pas les faire soigner et elles ne vont pas comprendre qu'on ne les comprend pas. Alors, quelles sont les solutions, quelles aides peuvent avoir les personnes et les familles? Alors, pour les personnes, la première porte, évidemment, c'est le soin. Le soin, c'est d'abord le médecin généraliste. Et puis, si c'est beaucoup plus pointu, ça va être après les spécialistes. Et les spécialistes, c'est soit le secteur public. Donc, pour le secteur de Die, ça correspond à l'hôpital de Montélégé, l'hôpital psychiatrique de Montélégé, soit le secteur privé. Et donc, il y a un ensemble de psychiatres privés qui sont soit sur le Diois, soit sur la vallée d'Arôme. Voilà. Ensuite, lorsque la maladie est vraiment grave, il y a nécessité d'hospitalisation le moins longtemps possible pour ne pas couper le lien avec la vie quotidienne. Et le relais de l'hôpital psychiatrique, le mieux fermé, c'est l'hôpital ouvert qui se trouve dans des centres médico-psychologiques. On appelle ça des CMP. Il y en a un à Cray et l'hôpital du Valmont souhaite développer très prochainement, peut-être en 2013, une antenne sur Die. Enfin, j'ai pas de connaissances très poussées là-dessus, puisque moi je suis pas du domaine du soin, je suis du côté des familles. Hein, mais voilà où l'on en est. Ça, c'est pour l'aspect soin. Ensuite, les autres aides possibles, c'est l'accompagnement médico-social. Bon, social, le lien social le plus connu sur la ville en général, c'est le Centre communal d'action sociale. Donc, je crois savoir que sur Die, il y a un Centre communal d'action sociale qui est très dynamique et qui offre beaucoup de possibilités d'accompagnement, d'hébergement. Mais là, je pense que je ne pourrais pas parler en son nom, hein, et les habitants de Die connaissent mieux. Et puis ensuite, ce dont je peux parler plus facilement parce que je connais mieux, c'est l'appui des familles. Alors, quel est le rôle de l'association l'UNAFAM dans le cadre des familles? L'UNAFAM est là d'abord pour accueillir, écouter les familles qui découvrent la maladie, qui rentrent dans l'accompagnement de la maladie et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Quand la maladie arrive, c'est un véritable tsunami. Et c'est un tsunami, mais qui dure longtemps, longtemps, longtemps. Parce que, comme je vous le disais, on met beaucoup de temps avant d'établir un diagnostic. La personne malade, ne sachant pas ce qu'elle a, ne le reconnaissant pas qu'elle est malade, va peut-être mettre des mois, des années avant de rentrer dans les soins. Donc, pour l'entourage proche, c'est extrêmement dévastateur. Alors, notre premier rôle à l'UNAFAM, c'est de rencontrer les familles, de les écouter et de leur proposer de l'accompagnement et de l'aide. De l'aide, ça peut être sous forme de groupe de parole, ça peut être sous forme de points de rencontre tout simple où on prend un petit café ensemble et puis on partage entre pairs, P-A-I-R-S, hein, des personnes qui savent de quoi elles parlent quand elles parlent de ce sujet très, très compliqué. Voilà. Et puis, ben, on a un rôle politique, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on va dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance, les commissions, des structures qui s'occupent des personnes handicapées. Ben, on a parlé de l'hôpital spécialisé, ben, nous sommes dans les structures de l'hôpital spécialisé du Vamont. Ensuite, le domaine du handicap est régi par une maison qui s'appelle la Maison départementale du handicap, la MDPH. Nous sommes présents dans ces instances pour porter la parole du handicap psychique. Et puis, nous sommes présents auprès de l'Agence régionale de santé parce qu'il faut du financement, auprès de la CAF, tout le monde sait ce que c'est que la CAF. Nous sommes à l'Union départementale des associations familiales, etc., etc.
Oui, alors je sais que vous n'êtes pas des spécialistes puisque vous n'êtes pas docteur ni psychiatre. Néanmoins, est-ce que vous, avec votre regard de non-spécialiste, de non-soignant, qu'est-ce que vous pensez justement des soins qui sont apportés aux gens souffrant de handicaps psychiques lourds de nos jours ? On parle souvent de camisole chimique.
Oui.
Est-ce que c'est suffisant ? Et on avait eu une conversation avec vous, Anne, pour préparer cette émission et vous m'aviez dit que les moyens qui étaient mis dans la psychiatrie de nos jours étaient notoirement insuffisants. Alors en quelques mots, en quelques phrases, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Si vous voulez, bon, de toute façon, on est dans une situation de crise. Le secteur de la psychiatrie est aussi un secteur qui est touché par des réductions de budget. Donc, ils sont, comme les autres, voire un peu plus, en grande difficulté. Mais je crois, et c'est justement tout le sens du lien qu'il y a entre l'espace social, culturel, éducation, santé de Rome et l'UNAFAM, c'est qu'il n'y a pas que la psychiatrie qui doit prendre en charge ce type de problème. C'est-à-dire que c'est aussi un problème social, c'est aussi ça concerne aussi les assistantes sociales du Conseil général, ça concerne les animateurs de l'espace social et culturel, ça concerne les infirmières ou même les aides-soignantes ou les médecins de l'hôpital général. Ça concerne les gens de l'accueil du jour à 10, ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que la prise en charge, on a deux manières de dire. On peut dire la psychiatrie n'a pas de moyens, on s'en sort pas et on s'enterre dans une forme de plainte. Et on peut aussi reconnaître qu'il y a peu de moyens, mais que c'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le fait que des professionnels arrivent à travailler ensemble, que des structures arrivent à se rencontrer, à échanger, bon, je crois que la diffusion de ce film samedi soir en est l'exemple, c'est aussi montrer comment il peut y avoir une forme d'accompagnement, parce que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Enfin, Marcel, je pense que tu me bien contrediras sûr. Pas. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Donc la question, elle n'est pas de guérir, elle est d'accompagner, elle est de trouver des contextes de vie qui soient le plus favorable pour que la personne soit moins isolée, décompense moins. Alors bien sûr, il y a les traitements médicamenteux et qui aident. Il y a les psychothérapies, il y a les psychanalyses, mais il y a aussi les cafés, les restaurants, les coiffeurs, les commerçants, enfin, ou un certain nombre de lieux où les gens sont ensemble, essayent de vivre ensemble. Et ça aussi, ça fait partie enfin, du soin. Vous voyez, le soin, il n'est plus seulement, je crois, sur ce type de maladie, il n'est plus seulement médical ou psychiatrique, il est aussi social.
Oui, il est tout simplement le fait de reconnaître que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont des personnes comme chacun d'entre nous. Hein, voilà. Et elles ont besoin d'avoir de liens, d'avoir de... Allez, je vais prononcer un mot, de l'amour, tout simplement. Hein. Mais pour ça, il faut pouvoir comprendre qui elles sont. Et c'est bien le but de cette rencontre qui aura lieu samedi soir, c'est de faire connaître un peu mieux et d'enlever des tabous, des a priori, de permettre de découvrir que bah, c'est monsieur, madame, tout le monde, et que c'est monsieur, madame, tout le monde, ont droit au bonheur. Alors c'est vrai qu'on ne guérit pas vraiment de ces maladies-là, mais dans certaines situations, on peut aller vers un état de rétablissement. Un état de rétablissement, comment le définir ? Ben, on continue à avoir la maladie en soi, il faut certainement prendre des médicaments toute sa vie, mais on retrouve un équilibre, un bien-être qui fait que ben, on peut être heureux dans le petit bonheur de tous les jours, on peut avoir du lien social, on peut avoir du travail, on peut un jour aimer, se marier, avoir des enfants, etc. Hein, donc tout n'est pas noir et catastrophique. Mais si les choses ne sont pas prises en compte, on peut aller au désespoir et il faut savoir que les suicides, et on revient à l'un des sujets du départ, les suicides concernent au moins 10% de la population des personnes qui souffrent de troubles psychiques graves.
Donc ils se suicident d'autant plus qu'ils ont un problème de maladie mentale.
Qu'ils sont dans un état d'extrême souffrance, souffrance qui n'est pas reconnue et qui n'est pas accompagnée.
Oui, et puis ce sont des personnes très vulnérables, alors même si, comme le disait Marcel tout à l'heure, ce sont des personnes qui parfois, comme ça dans l'imaginaire, font peur, il faut savoir quand même que ce sont les personnes qui sont le plus victimes, je crois que tu as des chiffres, hein, le plus victimes d'agressions, de vols, ce sont des personnes extrêmement vulnérables de par leur situation psychique. Donc on les voit plutôt comme des personnes dangereuses, alors qu'en fait, quand on regarde les chiffres et la réalité, on voit que ce sont elles qui sont beaucoup plus menacées économiquement, bon ça évidemment, et même personnellement et psychologiquement de par leur situation. Ça, c'est,
Oui Anne, tu as tout à fait raison. Je crois qu'il faut vraiment tordre le cou à un préjugé. Les personnes qui souffrent de maladies psychiques graves sont moins dangereuses que la moyenne de la population. Si l'on considère les origines des criminalités, il y a des criminels dans la rue, dans les villes, dans les campagnes, mais les personnes malades psychiques ne sont pas les personnes les plus criminelles. Au contraire, comme tu le disais, elles sont fragiles. On les repère facilement dans les rues. On a plus vite fait de leur piquer leur sac, de leur soustraire leur téléphone, etc., etc. Voilà.
Oui, moi je vois, j'avais des chiffres que tu avais donnés, Marcel. Elles sont 11 fois plus victimes de crimes violents que la population générale. Et la prévalence des vols sur ces personnes est 140 fois plus élevée que pour des personnes ordinaires. Enfin, je ne veux pas dire normales, mais
ouais, c'est énorme. Mmh.
Donc c'est vraiment...
Bon, c'est pas nous trois, même si vous êtes plus compétents que moi, qui allons épuiser ce débat, ce grave problème de société et humain. Donc peut-être... Pourrions-nous revenir à des considérations plus concrètes sur ce fameux film « Les voix de ma sœur » qui va passer donc au Pestel le 23 mars à 18h. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Alors je vais commencer à en parler et puis Marcel complétera. En fait, c'est un documentaire qui est en forme de portrait-témoignage sur une jeune femme de 41 ans qui s'appelle Irène et qui souffre de schizophrénie. C'est sa sœur Cécile qui a réalisé le film. Et ce qui est important, enfin, et très intéressant dans ce documentaire, c'est Irène, donc, qui raconte sa vie, ses difficultés, ses hallucinations. Elle n'est jamais en crise devant la caméra, c'est-à-dire que quand on la rencontre et quand elle parle, elle est apaisée et elle peut parler de manière très sensée de sa maladie. On rencontre aussi son entourage, sa famille, son médecin, et c'est un ensemble de témoignages très enrichissants. En fait, moi j'ai trouvé, enfin, il nous apprend un peu ce qu'est la maladie mentale, les souffrances qu'elle engendre, et je trouve que d'une certaine manière, c'est une très grande leçon de vie, enfin, pour nous et pour les personnes ordinaires, ce film, parce qu'il de cette personne qui souffre de manière très forte et qui arrive à avoir de l'humour sur ce qu'elle vit. Je ne dis pas qu'elle a de l'humour tout le film, mais elle arrive à avoir de l'humour. On voit son entourage et sa famille qui arrivent à parler de manière très sensée, mais de manière très franche. C'est très fort. Enfin, moi, je l'ai trouvé très, très fort.
Oui, je crois que le témoignage d'Irène dans ce film, c'est le témoignage de X ou Y habitants à Die, souffrant du même genre de maladie. On voit le témoignage de la voisine, du pharmacien, du médecin généraliste, du spécialiste, des frères et sœurs, de la maman. Voilà, c'est une leçon de vie que l'on peut croiser dans la rue. Hein.
Peut-être ce qu'il faut dire sur l'animation du débat, c'est qu'il y aura effectivement le docteur Bacri, qui est psychiatre, au Valmont, l'hôpital psychiatrique du Valmont. Il y aura aussi des membres du réseau prévention suicide, des professionnels qui pourront répondre aux questions dans le cadre du débat avec la salle, quoi. Si vous voulez, il n'y aura pas que la psychiatrie pour pouvoir commenter ce film, il y aura aussi des acteurs sociaux, des acteurs éducatifs du DIWA. C'est important.
Et rappelez donc que c'est un film qui va passer au Pestel le 23 mars à 18h, suivi d'un débat avec le docteur Bakri et donc des acteurs sociaux pour le modeste prix de 4 euros. Merci Anne Boisset et Marcel Allard d'être venus parler de ce film à la radio. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Et merci à vous.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview. Hey, the bird. Interview. L'interview du jour.